The vibes.
R2 tout le monde. Distant islands, spectral cities.
Voilà, merci. On va poursuivre notre matinée après cette vaste introduction de Françoise Vergès. Alors, il y a beaucoup de choses qu'a traversé Françoise, auxquelles on essaiera de revenir au fil de la semaine, d'autres choses qu'on essaiera d'explorer dans d'autres occasions. En tout cas, cette première cartographie nous montre tout un ensemble de connexions qui font, comme je le disais au début, que cette question caraïbéenne n'est pas une question isolée, mais une question hyper connectée avec des accidents, des rencontres, des alliances. Et donc là, je voulais poursuivre avec Samora Curier, qui est un producteur de contenu guadeloupéen. Pour commencer aussi, on va continuer cet après-midi avec Jaywan, Chukwan, avec Denetem Twan Bona et avec Paul-Aimé William, de tirer des fils et de tirer des échos de quelque part cette matrice antillaise, voir aussi comment quelque part elle devient discontinue parfois par notre fait à nous. Elle devient, et qu'il y a des généalogies qui sont aussi à reconstruire, à repenser, mais qu'ils prennent des chemins et des alliances qui sont à chaque fois différentes. Là, j'étais content de t'accueillir, Samora, autour de ton documentaire Cascode, dont on va écouter un premier épisode.
Pour un premier chapitre d'une vingtaine de minutes.
Voilà.
Qui introduit un peu.
M'intéressait dans ce, mais tu vas nous en dire quelques mots, mais ce qui m'intéressait beaucoup dans ta démarche, parce que donc tu réalises un podcast, tu fais aussi des émissions sur YouTube, c'est que ça introduisait la question de la transmission intergénérationnelle et des difficultés que posait le fait d'être issu d'une famille d'indépendantistes.
Oui, tout à fait. Donc moi, je suis le fils de Fernand Curier et Suzy Arax, deux anciens militants indépendantistes guadeloupéens. Mon père a été cofondateur du syndicat UT, enfin le secrétaire général du syndicat UTSGTG, mais aussi. Syndicat de la santé guadeloupéen, un grand syndicat de la santé, et a été indépendantiste toute sa jeunesse, ma mère aussi. Et en fait, l'idée de documentaire est venue au moment où je suis tombé sur une vieille photo de mon père sortant de prison, après avoir été mis en prison pour avoir fait des graffitis indépendantistes, militants. Déjà, je me suis rendu compte qu'on va aller en prison pour des graffitis, ce que je ne me doutais pas.
Cet après-midi, il y a des gens qui vont nous en parler, je crois.
Voilà. Et donc, j'ai commencé à tirer le fil et j'ai découvert une période de, on va dire, de 67 à 89, qui a eu un apogée, je trouve, fin des années 80, avec les Nuits Bleues. Et donc, on en parlera peut-être après. Et donc, j'ai interviewé mon père et un autre indépendantiste s'appelle Luc Renette. Pour savoir un peu plus sur cette histoire et comprendre l'histoire de ma famille quelque part aussi un peu.
Mais ce faisant, tu as eu aussi envie de le faire sur un format qui permettait de le partager avec des gens aussi de ton âge. Donc tu l'as fait pour toi, mais aussi pour
oui.
D'autres, quoi.
Oui. En fait, oui, je l'ai fait pour moi parce que ça me permettait de mieux me connaître et de savoir pourquoi j'avais eu l'éducation que j'ai eue. Spoiler alert, une éducation indépendantiste. C'est un peu paradoxal que je sois en France en train de vous parler, mais et en même temps dire cette histoire qui est un peu cachée, un peu sous le tapis, pourquoi est-ce que d'autres gens de ma génération la connaissent pas? Et j'étais choqué de voir que, enfin, surpris de voir que autant de gens la connaissaient pas, alors qu'elle a eu lieu il y a 30 ans à peine. Voilà.
Bon, on va écouter, parce que je crois que le documentaire introduit assez bien ta position, et puis on revient pour discuter juste après. À tout de suite.
Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours baigné dans l'esprit de révolte. Ayant des parents très engagés en tant que syndicaliste et militant politique, les mots grève, révolution et lutte ont toujours fait partie de mon vocabulaire et de mon héritage. Je me souviens encore des piquets de grève de l'UGTG où ils m'amenaient avec eux et où l'on restait une bonne partie de la journée. Je n'avais que 6 ou 7 ans, mais j'adorais les suivre. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de très important. Je revois les poings levés, les drapeaux verts, jaunes et rouges, et puis j'entends les chants révolutionnaires au bruit des tambours battants. Je crois que j'ai toujours plus ou moins su que mes parents avaient été indépendantistes dans leur jeunesse. Mais je n'ai compris que très récemment l'importance de ce combat dans leur vie. D'une part, car en grandissant, j'avais perdu l'intérêt pour le sujet, et surtout parce qu'au fil du temps, nous avons fini par ne plus l'évoquer. Alors peut-être parce que j'approche de la trentaine et que je ressens une forme de nostalgie, ou peut-être par un simple sursaut de curiosité tardive, j'ai cherché à comprendre cette époque et pourquoi mon père et ma mère avaient pris fait et cause pour le combat indépendantiste. J'ai très vite eu l'impression que parler de ce sujet en Guadeloupe était un véritable tabou. Comme si en parler mettait du piment sur une plaie ouverte. Il existe pourtant de la documentation, riche, que tout un chacun pourrait s'approprier. Sans pour autant prendre fait et cause pour les idées indépendantistes, j'ai remarqué que lorsqu'elles étaient abordées, c'était soit pour les décrier, soit pour les caricaturer. Mais pourquoi ? Je ne m'en doutais pas encore, mais je m'apprêtais à rentrer dans une histoire complexe et très ancienne, émaillée de violence et de mort entre la Guadeloupe et la France. J'ai profité d'un retour en Guadeloupe pour en discuter directement avec les intéressés. Sur la terrasse de la maison familiale, après un repas bien bourratif à base de riz, d'haricots rouges et de fruits de mer, j'ai décidé d'aborder la question avec mon père.
Tu connais l'origine de ton nom ?
Écoutons, dis-moi.
Eh bien, si tu t'appelles, je t'ai donné son nom en souvenir de Samora Machel.
Samora Machel.
Qui a mené la lutte de libération nationale du Mozambique.
C'est vrai.
C'était le premier président du Mozambique libéré.
Et tu t'es dit, comme dans son prénom là, ça allait être...
Oui, non, prédestiné, oui. J'avais une admiration sans bande pour ce militant révolutionnaire.
C'est vrai que ça a beaucoup jalonné ma vie, ce prénom.
Ouais.
Et même mes deux prénoms supplémentaires, Oudjama et Olilaya.
Nelson Mandela, ouais.
C'est fort en symbole quand même.
Ouais.
Et de toute façon, toi et maman, vous avez toujours bien aimé tout ce qui était symbolique, ouais. Tout ça. C'est un peu votre truc.
Ouais.
Alors, je te fais venir dans le podcast parce que là, je fais mon documentaire sur... sur l'indépendantisme, et j'ai découvert avec le temps que la lutte indépendantiste guadeloupéenne, pour toi, c'était ta vie, comme tu me l'as dit. Et j'ai envie de savoir plein de choses sur le sujet.
Ouais, parce qu'on n'en parle pas beaucoup.
Oui, alors déjà, pourquoi on n'en parle pas beaucoup de cette période-là aujourd'hui, à ton avis ?
On n'en parle pas, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération de militants qui ont une autre conception, probablement, de cette lutte. Et nous, on passe pour des anciens, pour des ringards.
Ah, des ringards ?
Ouais.
Cher auditeur, le mot ringard peut te sembler fort, mais il faut avouer que la prise d'engagement du jeune Fernand Curier débute il y a déjà bien longtemps, alors qu'il a à peine 17 ans, en 1968.
Cette idée-là me vient quand je rencontre des camarades de l'AGEG, l'Association Générale des Étudiants Guadeloupéens. Qui venait en vacances pour équipe pendant la période des vacances, menait des activités, vente de journaux, etc. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer ces personnes. Et c'est là que ma volonté de militer pour l'indépendance de la Guadeloupe a vraiment vu le jour. L'AGEC était à l'origine, dans les années 62-63, de la création du GONG, du groupe Endogène National de la Guadeloupe, qui a été vraiment le catalyseur du mouvement en Guadeloupe.
En effet, le GONG dans les années 60 est le fer de lance de la lutte indépendantiste. Créé en 63 depuis la France par des étudiants guadeloupéens, marqués par la guerre d'Algérie, le but de l'organisation est de sensibiliser le grand public aux idées anticolonialistes et de faire grandir le combat indépendantiste dans les colonies. Avec l'appui du Parti communiste, ils impriment des tracts et des magazines pour faire connaître leurs idées. Pierre Sainton, étudiant en médecine guadeloupéen d'une trentaine d'années, devient le chef de file de ce mouvement. En 64, le GONG s'installe en Guadeloupe, déterminé à remporter le combat pour l'autonomie de l'île. Sainton, sur la stèle dédiée au sacrifice de Louis Delgrès, proclamera le 30 mai de cette année-là
« L'homme naît libre. Il a des droits humains, légitimes et sacrés, des droits nationaux, des droits internationaux. Je déclare solennellement, sur la stèle de Delgrès, que le GONG entame dès aujourd'hui, 30 mai 1964, en Guadeloupe, sur le sol national, la lutte de libération. »
«
Trois ans plus tard, en mai 1967, un événement tristement célèbre fera entrer le gong un peu plus dans l'histoire de la Guadeloupe. Si au premier abord l'année 68 vous parle, c'est bien entendu parce que vous savez que la même année ont eu lieu les révoltes étudiantes à Paris. Mais ce qui est important dans l'histoire de mon père et dans celle de beaucoup d'autres militants de sa génération, c'est que son engagement prend place un an après les massacres de mai 67. Des événements là aussi largement occultés dans l'histoire de France, mais qui marquent pour les Guadeloupéens une page sanglante de leur histoire. En mai 67 donc, environ 1000 ouvriers manifestent pour une amélioration de leurs conditions de travail ainsi qu'une augmentation de leur paie de 2,5%. Le gong, groupement des organisations nationalistes guadeloupéens, est à la tête du mouvement de contestation. Les négociations avec le patronat sont au point mort et la tension monte rapidement aux abords de la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Le contexte quant à lui est incandescent. Après la perte de l'Algérie en 62, il est hors de question pour l'État français de se montrer faible face aux indépendantistes du gong qui sont surveillés tel le lait sur le feu. Il suffit alors de très peu de choses pour que la situation s'envenime. Les manifestants balancent des conques de lambi, des coquillages ramassés au bord de la mer, des pierres et des bouteilles sur les forces de l'ordre qui ripostent à balles réelles. 87 personnes trouveront la mort ce jour-là.
En fait, donc moi, les années 70 qui sont un peu la structuration de ce mouvement. Et puis, moi, j'analyse dans mes recherches que les années 80, fin 70 et début 80, c'est le début des luttes armées.
Oui, des mouvements.
Des mouvements plus radicaux. Mais plus, comment tu analyses ce basculement ?
Pour nous, il était nécessaire qu'à un moment donné, l'affrontement ait lieu avec le système colonial. On n'était pas d'accord sur tout. Mais nous avons vu d'un bon œil que des Guadeloupéens aient le courage d'investir ce front-là.
Parce que l'histoire a beaucoup peu parlé de cette période-là, des années 80. Il est difficile aujourd'hui de se renseigner sur ce qui s'est passé à cette époque-là.
Ah oui, mais il y a des documents qu'on peut trouver sur Internet.
Oui, mais je trouve que c'est quand même...
Ils ne connaissent pas la totalité de la situation. Ils parlent de ce qu'ils ont vu, de l'aspect connu de la situation, mais c'était vraiment, la Guadeloupe était vraiment entrée dans une période, dans un moment d'ébullition, et chacun se posait la question de savoir comment il allait se positionner par rapport à la violence. Oui.
J'ai l'impression que ce mot, violence, est à jamais inscrit dans l'ADN de mon île. Violence des siècles passés, violence de la déportation des Africains réduits en esclavage et tués à la tâche, violence envers les Arawaks massacrés, envers les engagés indiens, et puis une violence du temps présent, exercée à la fois du point de vue social, sanitaire, économique et physique, sur une population guadeloupéenne qui n'en peut plus. Alors de cette violence qui n'engendre qu'elle-même, naît une autre, créée par le désespoir. Des jeunes, déterminés et revanchards, prennent les armes et s'opposent frontalement au système, au péril de leur vie. C'est le temps du glas, de l'arc, de l'UPLG, des bombes et des nuits bleues. Dans le prochain épisode de Cascode. Allô, maman ?
Oui, chérie, bonjour.
Tu sais, j'arrive demain.
Super, je suis très contente.
Bah, super. Et tu sais, voilà, je t'appelais aussi parce que j'aurais peut-être besoin de ton aide, parce que tu sais, je fais mon docu, mon émission sur l'indépendantisme.
Oui, oui.
Et du coup, je cherche à rencontrer des personnes qui auraient été, on va dire, plus ou moins première loge, mais sur l'aspect un peu plus armé, tu vois, un peu lutte armée. Et je veux savoir si tu avais peut-être une idée de quelqu'un que je peux rencontrer pendant mon séjour là-bas.
Moi, je vois une personne. Tu nous as entendu parler de l'Ukrainette.
Ah oui, l'Ukrainette. Ah oui, c'est quelqu'un d'important à cette époque-là, oui.
Oui, oui, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu, quoi qu'on en pense et quoi qu'on dise. Il a porté sa pierre à l'édifice. Et c'est quelqu'un qui a été à l'origine du Memorial Act. Il a vraiment été... très positif pour la lutte. Tu aurais voulu le rencontrer pendant ton séjour alors. Donc quand tu arrives demain, écoute, je peux voir ça, ok ?
Super, merci maman.
Mais tu ris de rien, hein ? Tout est pour mon fils quand même.
Ok, bon bisous.
Gros bisous mon chéri, alors à demain.
À demain.
Alors on va vous frustrer un peu, hein, parce que...
Merci. Merci.
Alors, l'ensemble des épisodes s'est rassemblé maintenant sur un programme qui fait 1h10, plus ou moins.
Voilà, 1h, à peu près 1h et quelques. En fait, j'ai rassemblé les 4 épisodes de Cascode dans un seul fichier sur YouTube. Donc, il est accessible sur ma chaîne YouTube, Le Mois Cast.
Voilà, bon, on partagera de toute façon des ressources et des références à la fin de chaque journée pour les gens qui se sont inscrits sur Eventbrite notamment, qui recevront voilà, des éléments de lecture et aussi des sons à écouter. Alors c'est drôle parce que dans le podcast, tu joues aussi volontairement dans un rapport qui va être aussi plus intime. On a parlé en introduction de cette journée, de la question de l'amitié. Là, il y a la question des filiations, des affects, qui sont souvent des choses qu'encore une fois, on oppose à la question politique. Alors que là, toi, volontairement, t'essayes de réfléchir à comment se transmet ou ne se transmet pas des choses auprès de gens qui sont quand même tes proches.
Ben, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui m'a surpris quand j'ai commencé à faire mes recherches sur mon histoire familiale, mais aussi globalement sur cette période des Nuits Bleues d'années 80, c'est que on est une famille, on se porte énormément d'amour, on se dit tout, et pourtant il y a cette période-là qu'on n'a pas estimé nécessaire de partager. Or, ben en fait moi après cette période de 80-89, il y a eu des attentats, il y a des trucs et tout, et mes parents étaient aux premières loges de tout ça. Ben moi je suis né en 90, donc ça veut dire que j'ai été en fait le point final quelque part de d'une période de militantisme actif. Donc pour moi ça fait partie de leur vie. Et ils auraient peut-être plus le partager avec moi. Et donc je voulais savoir pourquoi est-ce que ça n'a pas été un automatisme pour eux, pour mon père, ma mère, mais globalement même pour Monsieur Rennet, et ça n'a pas été un automatisme de le repartager plus avec son entourage, etc.
Alors il y a des raisons un peu qu'on va essayer de traverser, qui font partie aussi de questionnements qu'on peut se poser nous avec l'idée de reconstruire une archive dont on a parlé ou de refaire des formes pour parler de cette histoire-là. La première chose, c'est dans ton documentaire, tu dis que donc en mai 67, il y a 87 morts
minimum.
Alors ça c'est minimum. C'est un chiffre ouais. Qui est donc j'ai pas peut-être
non, plus proche des 200.
Voilà, qu'en fait qui est peut-être c'est assez rare sur un événement comme celui-là que la version entre la police et les versions qui circulent et les versions possibles soient aussi larges, parce que la police annonce 3 morts.
Ouais, oui, tout à fait.
Donc voilà un événement où il y a 3 morts, où toi tu dis qu'il y en a 87 et tout le monde dit qu'il y en a sûrement au moins 200. On retrouve des similitudes avec ce qui se passe en octobre 61 à Paris avec les Algériens, c'est-à-dire étonnamment en fait, dans un type de violence et de crime, le nombre de morts est pas su, et c'est quand même quelque chose d'assez marquant et qui pour moi est peut-être le début de cette espèce de problème de transmission.
C'est vrai que ce qui s'est passé en mai 67, il y a une chape de plomb, il y a un trauma, la difficulté pour les gens de raconter ce qu'ils ont vécu. J'ai pu trouver assez peu de témoignages de gens qui ont dit bon ben ce jour-là j'étais là, voilà ce qui s'est passé. On a quand même quelques-uns et qui nous racontent l'horreur qui s'est passée à Pointe-à-Pitre ce jour-là, où par exemple il y a un enfant, enfin un monsieur qui est aujourd'hui un vieillard, enfin voilà, mais qui dit que quand il était plus jeune, il avait vu un policier s'arrêter dans la rue face à un homme qui était accoudé, adossé à un mur. Il l'a regardé, il lui a mis une balle dans la tête comme ça. Et en fait, on comprend quand on voit ça qu'il y a des gens qui disent moi je veux pas en parler, je veux le garder pour moi, etc. Donc c'est ce qui fait que documenter tout ça, c'est très difficile. Surtout aussi qu'il y a un autre truc, c'est qu'il y avait un photographe qui était présent. Et cette personne-là a pu avoir des photos de cette période. Mais la police, les gendarmeries, l'équipier rouge l'ont poursuivi pendant des jours pour récupérer son appareil, pour qu'il puisse partager les photos, etc. Donc en fait, l'État aussi a fait en sorte de silencier cette période.
Voilà, et on sait aussi dans les familles guadeloupéennes, comme l'État va à un moment donné tenter de criminaliser pas simplement les vivants mais aussi les morts, que certains vont enterrer en secret leurs morts et donc vont pas déclarer que quelqu'un de leur famille est mort à cette occasion pour pas être impliqué indirectement et criminalisé à leur tour.
Salir un nom sur une île où on est à peine à l'époque ouais à peine 200 000. Avoir sur ton front le mot révolutionnaire, le mot émeutier, criminel, c'est aussi socialement c'est lourd. Donc je pense que ça a dû aussi motiver certains choix. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, avec beaucoup de guillemets, sur ce moment de mai 67, c'est qu'il permet de rejoindre un peu des choses qu'a aussi introduit Françoise tout à l'heure, c'est-à-dire en réalité une connexion assez vaste entre ce qui se passe en Guadeloupe, mais aussi ce qui se passe en Algérie. Et en fait, notamment la circulation de gens qui étaient des soldats en Algérie et des policiers en Algérie qui se retrouvent en Guadeloupe, mais aussi des préfets qui vont faire Algérie, Guadeloupe, Seine-Saint-Denis.
Oui, Pierre Belotte. Pierre Belotte est en Algérie où il met en place des méthodes de pacification. Il va en Indochine, il perfectionne. Après, il va à La Réunion et il utilise aussi. Après, il va en Guadeloupe. Et là, bah, c'est mai 67, c'est des morts. Et après, il est promu, il va à Saint-Denis et il monte la BAC.
Donc ça, c'est intéressant parce que bon, même si c'est des choses qui sont assez angoissantes, ça fait partie des choses dont on parlait avec Françoise, d'utiliser des outils cartographiques. En cartographiant en fait la circulation d'un préfet, on comprend que l'argument de la colonialité des banlieues parisiennes n'est pas juste une vue de l'esprit. Moi, je me rappelle en ayant discuté avec une association qui faisait un travail sur la question de l'histoire des luttes dans les quartiers populaires. Il disait, alors nous, on n'arrive pas à trouver de noirs ni de rapport avec les Antilles, quoi. On est vraiment. Et en fait, c'est intéressant de voir que le rapport, il se reconstruit aussi à travers la police.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une manière aussi de mettre un couvercle comme sur notre commune sur des populations qui auraient des demandes légitimes, qui auraient des revendications légitimes concernant leur histoire ou même leur situation actuelle dans les banlieues, etc. Et en fait, on utilise cette police formée dans les colonies ou qui a cet apprentissage des colonies pour pouvoir exercer la même violence pour vraiment couper à la racine toute revendication.
Alors on rappelle que ces événements de 67 naissent d'un moment de grève assez important et d'une négociation qui va, voilà, après il y a plusieurs versions, mais qui va quelque part ne pas aboutir et on aurait, le patronat aurait dit, mais quand les ouvriers auront faim, ils reprendront le travail, début d'une manifestation durant laquelle on tire à balles réelles et qui dure plusieurs jours finalement, qui s'étend sur plusieurs journées, quoi.
C'est ça. Et on remarque, on en parlait avec Françoise tout à l'heure, c'est l'aspect systématique, cette répression sur les ouvriers de la terre. Souvent, aux Antilles, en Guyane, lorsqu'il y a eu de la répression sur des militants, ben c'était des grévistes, de l'agriculture, des travailleurs de la terre, dans 1900, en 67, en 74, etc., 42, des gens qui voulaient juste avoir des conditions de travail meilleures, et la seule réponse qu'on leur a donnée, c'était des balles, et retourner bosser, quoi.
Peut-être que c'est intéressant pour comprendre aussi cet enjeu qui a été évoqué et par Françoise, sur lequel tu reviens, sur la question du monde agricole. Rappeler en fait qu'on est sur des îles post-plantationnaires et sur lesquelles, évidemment, au moment de ce qu'on va appeler dans l'histoire française officielle en 1848 l'abolition de l'esclavage, que nous on peut appeler la fin de l'esclavage, parce que s'il est aboli, c'est qu'en fait, économiquement, il se termine et qu'il n'est plus aussi efficace qu'il a été. Il n'empêche, au moment de 1848 et donc la soi-disant pleine citoyenneté des anciens esclaves, la question de l'accès à la terre et la question de la liberté à travailler pour qui on veut est un enjeu beaucoup plus important, encore une fois, que l'abolition. C'est-à-dire qu'on devrait parler, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'abolition?
Et surtout, ce qui se passe vraiment, ben, ça me rappelle le film Rue Cazeneuve de Ozan Palsy, où il y a Médouze, l'homme âgé, le mentor du plus jeune garçon héros, qui dit à la libération, on était tellement content qu'on a couru, j'ai fait le tour de la Martinique tellement j'ai couru, et puis à la fin je me suis rendu compte que j'avais le ventre vide et qu'en fait il fallait que je retourne travailler et que finalement l'ancien maître était devenu le patron et que la plantation où je travaillais, ben, je devais y retourner pour vivre. Et ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que malgré tout, ben, les positions de pouvoir étaient toujours dans les mains des béquets. Les Noirs continuent à travailler dans les champs. Et en plus, on a rajouté des engagés, Congo, Indiens, qui certes étaient payés, mais avaient des conditions de vie presque similaires à la vie des esclaves, esclavisés. Et en fait, ce système post-plantationnaire, même néo-plantationnaire, je dirais, a perduré et a encore des stigmates aujourd'hui en 2024 dans nos territoires.
C'est ça que ce qui me semblait intéressant, c'est ça, ce qu'on parlait de construire une cartographie. Là, moi, j'ai parlé notamment de l'intérêt, je trouve, de faire une cartographie policière et préfectorale, puisque dans les territoires dits d'outre-mer, l'État, c'est le préfet, quoi. Et je trouve que c'est pas du tout la même sensation qu'on a quand on vit en hexagone. Le préfet est une figure un peu floue pour quand on vit. Mais quand on est aux Antilles, le préfet, c'est comme le président de la République, en fait. C'est vraiment.
Le gouverneur.
Voilà, c'est le gouverneur colonial. Donc ça descend.
Voilà, exactement.
Ça descend vraiment. C'est presque une espèce de continuité coloniale très forte. Et donc ça, c'est aussi important. Il y a un autre aspect de l'histoire qui est tout à l'heure, on parlait de la question du secteur bancaire. Il faut regarder aussi la question des lois qui se votent à l'Assemblée. Et notamment, l'un des endroits que moi, sur lequel j'aime bien pointer pour notre cartographie collective, c'est de dire que quand en 48, à l'Assemblée nationale française, est finalement votée la question de l'abolition, est votée le même jour à l'Assemblée un ensemble de lois étendues contre le vagabondage. Foucault en avait parlé, en fait, pour la situation en hexagone. Là, elles sont beaucoup plus nombreuses, les conditions qui fait de vous un vagabond, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être arrêté et même tué. Et l'une d'elles, elle est relativement simple, mais très efficace. On ne peut pas, en tant qu'homme ou femme noire, circuler en Guadeloupe, en Martinique, à l'abolition, si on n'a pas un contrat de travail. Donc vous quittez la plantation la veille, et le lendemain, votre problème, c'est de pouvoir vous faire embaucher en faisant peu ou prou le même métier. C'est pour ça que la question de la célébration de l'abolition est quelque chose d'assez violent et paradoxal, puisqu'en fait, les conditions mêmes de la servilité sont complètement reconfigurées. Il faut rappeler qu'en 1850, en fait, la France aussi s'engage sur une colonisation d'occupation de l'Algérie. Et donc, elle aligne ces conditions coloniales d'indigénat entre des endroits anciennement où il y avait l'esclavage et ceux sur lesquels elle arrive.
Et d'ailleurs, quand tu dis ça, ça me fait penser que c'est pour ça que chez nous, il n'y a pas de célébration vraiment de la fin de l'esclavage, c'est une commémoration qui est très solennelle, parce que déjà, on a des gens qui sont militants, qui sont conscients de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore, et dans la manière dont ils veulent se souvenir de cet esclavage, c'est de cette abolition, c'est en fait le début d'une autre histoire, et une autre souffrance, et d'autres violences qu'il faut encore combattre, et c'est vrai que chez nous, on n'a pas du tout cette vision de « ah ouais, c'est bon, on est libre, c'est parfait ».
Sachant que, entre-temps, si l'esclavage est aboli, c'est qu'il a été rétabli, quoi.
Oui, oui, c'est vrai.
Et qu'il est d'abord aboli en 1794, ouais, rétabli en 1802, avant d'être de nouveau aboli. Donc ça, c'est aussi une... Mais voilà, ce qui m'intéressait, pour revenir à ton documentaire, et là, on a été voir un peu plus loin dans le temps, et on revient dans ces années 80, qui sont... en quelque sorte, quand même, qui sont un peu l'écho de 67.
Oui, oui, oui.
Comme on pourrait dire que 2009 serait l'écho des années 80. Comme s'il y a des séries de choses où se répètent des mêmes choses à chaque fois dans une configuration différente. Comment tes parents, ils ont évoqué auprès de toi 67, par exemple?
Moi, mes parents, ils ont évoqué 67 comme ils étaient adolescents. Et c'est vraiment un moment qui est presque... Parfois, quand ils étaient plus jeunes, ils se demandaient si ça a vraiment eu lieu, quoi. Est-ce que ça a vraiment eu lieu? Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Etc. Et puis, il y a la découverte. Quand tu prends plus d'autonomie, tu vas voir l'endroit où c'est passé. Tu vas rencontrer des gens qui ont vécu des choses. Et il y a en toi, en fait, une sorte de rage, de colère qui monte de se dire que l'État a pu faire ça. Donc, il y a des gens qui sont ça, que ça a pacifié, parce que c'était le but de pacifier. Il y a des gens chez qui ça a créé un esprit revanchard, une colère. Ce qui a créé, finalement, ça a été le terreau fertile pour la création de ce mouvement indépendantiste qui va prendre dans les années 70-80 beaucoup de force. Et notamment avec la création de l'UPLG, qui est le mouvement le plus populaire à cette époque-là, mais aussi des mouvements plus radicaux. On parlait du GLA, de l'ARC, qui sont en fait le même mouvement, mais qui a été dissous puis recréé par Henri Bernard, l'Ukrainette, etc. Et donc ces personnes-là décident qu'en fait, 1967, c'est le moment où on dit stop. En fait, on peut plus être français. La relation qu'on a avec la France, pas de relation, c'est une relation qui est non seulement toxique, mais elle est mortifère. Comment on réfléchit pour nous-mêmes, pour notre territoire et notre avenir, et quand on voit surtout autour de nous des îles qui sont en train de prendre leur indépendance, on voit en Afrique qu'il y a des indépendances qui se font. Peut-être que nous aussi, on peut ajouter notre voix à ce concert des indépendances qui ont lieu.
Ouais, tu sens qu'il y a cette connexion aussi intercaribéenne à ce moment-là et que par exemple ce qui se passe dans d'autres îles va jouer va être important pour le mouvement guadeloupéen.
Ben c'est pour ça d'ailleurs que le GLA passe du GLA à l'ARC, l'Armée révolutionnaire caraïbe. C'est que d'abord cette lutte autour de 80-83 et la première dissolution, l'arrestation, etc. C'est un truc très local, très anti-française, anti-Guyane. Et à un moment donné, ils disent, en fait, non, c'est l'armée révolutionnaire caraïbe. En fait, on parle de la Caraïbe, on parle d'un bassin global où on a tous une culture, une histoire et des aspirations qui sont similaires. Et où, finalement, la grille d'analyse politique de ce mouvement devient plus internationale. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Henri Bernard, qui, du coup... va commencer à partager aussi le mode de pensée communiste auprès des agriculteurs, etc., avec notamment un discours conscience de race, conscience de classe, conscience nationale, pour leur expliquer ce que c'est que les classes sociales, qu'est-ce que c'est que le patronat, qu'est-ce que c'est que le communisme, etc. Donc finalement, il y a une vision plus globale après qui se crée.
Et donc du coup, on arrive là dans ce moment des années 80, où il y a plusieurs conjonctions. Moi, ça m'intéresse de voir comment se transmet ce moment-là par tes parents, comment toi, tu l'analyses. Mais il y a plusieurs éléments de conjonction. Et il y a aussi des infrastructures, l'une d'elles qu'on n'étudiera pas beaucoup durant cette semaine, mais sur laquelle on reviendra quand même, qui est l'arrivée la question de la radio. La question de la radio qui, pour beaucoup de Français, donc mai 68, manif étudiante, vous rappellerez qu'il y avait mai 67 un an avant. Et c'est comme ça aussi qu'on on retisse une histoire où évidemment la police n'a pas tiré sur les manifestants en 68, mais a tiré, a tué plus de 100 personnes en 67. Donc ça, c'est aussi une manière de relire des moments historiques français. Et puis 81, c'est les radios libres en France. Et ça va être un moment extrêmement important, voilà, pour le monde associatif, pour les mondes militants. Mais il y a une histoire de la radio, et notamment de la radio en créole, oui. Au pays, mais aussi en France.
Alors il y a, je sais pas si Radio Tambou, c'est déjà cette époque-là, Radio Tambou.
Un peu après.
Par contre, je sais que le MPGI, donc qui est la face politique de l'ARC, donc l'ARC, donc qui est un mouvement indépendantiste militant d'action violente, il crée le MPGI, qui est le parti politique, on va dire, qui va s'asseoir aux négociations, etc. Et le MPGI, il s'installe à Pointe-à-Pitre, en haut d'une tour, une barre d'immeuble, et ils émettent avec une antenne, et ils créent Radio Liberté, je crois. Je ne sais pas si c'est Radio Liberté. Et à ce moment-là, cette radio permet de diffuser le message, de donner de se rallier, de faire venir des intervenants pour discuter de sujets autour de l'avenir de la Guadeloupe et globalement de la Caraïbe. Donc oui, la radio a été très importante pour pouvoir diffuser ce message.
Et à Paris, dans les locaux de Radio Libertaire, il y a Radio Voca, une radio qui émet en créole depuis la France. C'est interdit. Faut le savoir. Donc les radios libres sont lancées, mais les radios qui émettent en créole des messages indépendantistes sont interdits. Radio Libertaire, j'ai recueilli des témoignages, gens qui racontaient, les gars avaient quand même des armes à l'intérieur. Hein. C'était une autre époque. Et ils vont, c'est eux qui vont à un moment donné aussi faire circuler les revendications, donc de l'attentat du monument Marchand. On ira au monument Marchand mercredi matin, qui est un attentat au cœur de Paris qui fait sauter une statue coloniale, plus plusieurs agences d'Air France.
Oui, il y a pas Chanel aussi qui avait.
Et donc il va y avoir ce moment-là va être aussi un moment où par rapport à cette époque-là, l'année 83 et cet attentat-là dans Paris, plus la série de ceux qui se déroulent en Martinique et en Guadeloupe, là, ça va être le moment où l'État français va dire stop.
Alors, en fait, c'est ça. Il se passe la stratégie des Nuits Bleues, stratégie héritée justement aussi de l'Algérie. Et donc l'ARC, donc l'Ukraine est en tête avec tous les membres, décide de faire des actions coordonnées. Donc, c'est-à-dire que les mêmes soirs, plusieurs bombes vont exploser dans l'île. Et au total, avec celles qui ont eu lieu en France, il y a environ, en un an, une soixantaine de bombes qui sont posées, qui explosent. Et là, en fait, à ce moment-là, ben, l'État français, bien évidemment, renvoie les CRS, l'armée, etc. Il faut savoir que ces attentats ne font pas de victimes, ou alors les poseurs de bombes, souvent. Après, il y a les cadres de l'UPLG, mais c'est... RCI, je veux dire ? Oui, RCI. Mais il n'y a pas eu de mort à RCI. Non, il y a eu des blessés. Oui, c'est ça. C'est bien cet échange. Donc il y a la plupart du temps pas de mort à part les poseurs de bombes. Il y a des personnes qui sont blessées, mais en tout cas c'est déjà pour l'État il faut réagir et donc on va commencer à chercher les têtes de ces mouvements et c'est le moment où les créateurs de ce mouvement vont partir en marronnage. Le terme marronnage qui vient aussi de l'époque d'esclavagisme, donc il y a vraiment cette continuité. Et donc, vont aller dans les bois, se cacher, s'entraîner, Antigua, etc. Antigua, c'est ça après.
Oui, mais ce qui est drôle dans ce marronnage, quand on en a parlé, c'est vrai que moi, c'est la même histoire qu'on racontait à la famille, notamment Humbert Marbeuf.
Oui, Humbert Marbeuf.
Qui est donc de ma... Donc on partage le nom de famille, et sur une île, quand on partage le nom de famille à des indépendantistes, ça vous fait quelques problèmes, quoi. Donc, c'est aussi rappel, parce que c'est qu'une île, c'est comme un grand village. Donc, le nom de famille joue un rôle important. Et Humbert disait, ouais, mais en fait, ils marronnent, les gars, mais ils vont acheter, tu les croises le matin, à l'épicerie du coin, quoi.
C'est ça qui m'a fait rire quand j'ai fait mes recherches, c'est que quand je parle avec, d'ailleurs, dans le documentaire, il en parle, l'Ukrainette, il dit, bon, on était recherchés, mais bon, on faisait notre vie, quoi. On se baladait, on faisait des trucs et tout. Et en fait, il y avait une sorte d'insouciance ou je sais pas.
Il y avait aussi une solidarité parce qu'on l'a retrouvé au moment des blocages de l'île, 2021 ou de 2009. La problématique de l'État français, c'est quand même globalement des formes de solidarité spontanée de la population.
Bien sûr. On saute des étapes, mais on n'a pas. Il faut aller vite. Mais donc l'Ukrainette et son groupe, Humbert Marbeuf, Henri Amédien, Henri Perratou, se font arrêter, sont emprisonnés à Basse-Terre. Nabajot. Ah, j'avais pas le nom d'Abajot. Ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés et ensuite ils s'évadent. Alors l'évasion, ça devrait être, il y aurait un film Netflix sur cette évasion. Mais bon, voilà, cette évasion, elle est incroyable. Elle est racontée dans le docu avec une musique un peu intense parce que c'est ouf. Et donc ils s'évadent et donc c'est les gens, les Guadeloupéens en fait, pas forcément des gens encartés ou dans des mouvements et tout, qui vont les cacher, qui vont les soigner parce qu'il y en a qui l'Ukrainette se fait blesser, etc. Ils les soignent et tout et en fait ils vont complètement pouvoir rester off the grid, voilà, et malgré tout avoir à manger, pouvoir continuer à faire des actions, etc. Malgré tout, qui jusqu'à prendre l'avion pour fuir, ça c'est un autre sujet.
Donc voilà, ça c'était ce qui me semblait intéressant en fait dans le récit de ces moments-là, c'est qu'à la fois c'est un mélange d'actions très radicales et à la fois une capacité de la population en termes de résilience à pouvoir penser aussi la question du marronnage, la question des oppositions, qui dessine quelque part à travers ces événements-là une autre histoire du territoire dont quelque part ton travail montre qu'elle est du coup pas transmise.
Elle n'était pas transmise. Alors je sais pas si c'est lié. Je pense que c'est les gens pensent aux mêmes choses au même moment. Mais par exemple, Outre-mer, la première a diffusé récemment un documentaire sur les Nuits Bleues. J'entends de plus en plus de gens en parler, alors que j'entendais pas du tout en parler depuis la période Covid. En fait, j'ai l'impression qu'il y a il y a aussi eu un regain aussi d'esprit de révolte aussi en Guadeloupe depuis 2020. Et je pense que les gens se remémorent ces périodes-là, cherchent des informations, les langues se délient. Et donc, il n'y avait pas cette transmission avant. Et je pense que maintenant, les gens commencent à se dire, si jamais on devait, je sais pas, prendre le maquis, comment ça se passerait, quoi?
Oui, c'est vrai que tu cites le Covid. Pareil, encore une fois, peu de récits sont faits de ce qui se passe sur ces territoires-là, notamment en Guadeloupe pendant le Covid.
Ah, oui, oui.
Qui va avoir quelque part un effet de
catalyseur.
Ouais, catalyseur et de répétition de nouveau de l'histoire, comme Françoise l'a précisé tout à l'heure, et c'est extrêmement important. Moi, j'ai une de mes sœurs qui travaille dans un laboratoire, donc toute son entreprise, le plus grand nombre de chercheurs qu'ils ont envoyés sont dans nos régions pour le Covid. On a tous compris en fait que c'est la pharmacopée de cette région-là qui permet de soigner le Covid. Simplement, les gens n'étaient pas autorisés à utiliser cette pharmacopée, ils devaient se faire vacciner.
Oui.
Donc, problème de reconnaissance. Pour mémoire, le ministre de la Santé dit à l'époque, il y a des régions de la France qui sont dirigées par le Rhum et par le Vaudou.
Oui, oui, c'est ça.
Fin de la citation. Non, c'est... mais c'est quand même, quand on sait que c'est la pharmacopée de cette région-là que Pfizer utilise pour faire les vaccins. Et donc, c'est vrai que, encore une fois, là, on parle de 2020, hein, on n'est pas en train de parler d'il y a un siècle. 2020, c'est ça qui se passe. Et effectivement, deux éléments vont être déterminants. Parce qu'il y a une histoire du biopolitique, de traitement du corps antillais et aussi des outre-mer dans l'océan Indien qui est connue, c'est-à-dire les gens font de moins en moins confiance aux médecins français dans ce qu'ils font du corps. Des gens ont été stérilisés sans qu'on leur dise. Donc il y a quand même une réticence sur la vaccination, une pharmacopée spécifique et enfin cet élément de le pass sanitaire qui sur un territoire aussi serré en termes de population qu'une île où tout le monde connaît tout le monde, peu de gens vont demander le pass sanitaire à quelqu'un qui est potentiellement ton cousin et sûrement quelqu'un de ta famille. Et donc l'effet du pass sanitaire sur la circulation de l'île est juste reçu de manière...
Oui, en fait le truc c'est que les politiques sanitaires qui sont mises en place à ce moment-là ne prennent pas en compte le contexte particulier de nos territoires et le fait que donc il y a un manque de confiance. Parce que nous, moi, je vois la confiance comme un carburant. C'est-à-dire qu'on prend un peu de carburant pour tel sujet, puis au bout d'un moment, il n'y a plus de carburant dans la voiture. Et là, la confiance était épuisée parce qu'il y a eu le chlordécone, parce qu'il y a des violences policières, parce qu'il y a le coût de la vie, parce qu'il y a l'hôpital qui avait brûlé et on n'avait plus de CHU. Il n'y a pas d'eau dans les robinets, mais il faut se laver les mains pour pas... Enfin, il y a tellement de choses où les gens ont donné confiance à l'État et l'État n'a pas su répondre à cette attente que les gens ont, quelque part, n'ont plus eu confiance. Et en fait, la réponse qu'il y a eu, c'est une communication hyper descendante et coloniale, la manière de traiter les populations, et ensuite envoyer les forces de l'ordre pour réprimer. Et c'est souvent le cas. Alors que je pense que... S'il y avait eu une communication non violente, une communication plus claire sur les tenants aboutissants de cette situation et pas laisser le doute sur l'efficacité ou la non-efficacité, etc., les gens auraient peut-être été plus aptes à suivre les choses. Mais sur ces territoires où la confiance a disparu, ça a entraîné de la violence, encore de la violence.
Après, il y a ce rapport-là qu'on a évoqué plus tôt, qui est aussi les possibilités d'autonomie. Si on y vient, et encore une fois, j'avais envie d'explorer ça, mais on le fera dans une itération de ce programme, la question de l'automédication et du soin pour soi. Là, il est refusé aux gens la capacité de prendre des tisaneries qui sont pourtant utilisées en tant que principe actif dans les vaccins qu'on fait. Donc, de pouvoir utiliser leur propre pharmacopée, ça joue un enjeu assez important.
Je, encore une fois, ce que je dis, c'est vraiment la prise en compte du contexte. Je pense qu'il y a aussi de représentation aussi quand l'ARS s'exprimait à la télévision, ce que beaucoup de gens sur les groupes WhatsApp et sur Facebook disaient, c'est des Français qui viennent nous dire comment on doit faire, etc. Il y a et dans cet esprit de rébellion, c'est difficile pour les gens de l'accepter, de se soumettre aux demandes. C'est malheureux, mais c'était prévisible.
Moi, j'avais envie d'étendre, cette conversation-là après à la question des supports que tu as que tu utilises, puisqu'on a évoqué avec Françoise la très grande circulation des informations. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que même, et ça on le sous-estime, dans des périodes plus anciennes, même celle de l'esclavage, la vitesse de la circulation de l'info via les marins noirs, par exemple, sur les bateaux, était beaucoup plus importante qu'on ne le pense. En 3 semaines, on savait globalement ce qui se passait dans un sens comme dans l'autre, alors que les distances étaient quand même parcourues sur des périodes beaucoup plus longues. Et c'est la même chose pour la question de, dans les années 60, des journaux et de la presse. On trouve vraiment des éditions de journaux africains aux Antilles et inversement. Il y a un niveau de circulation qui est extrêmement impressionnant dans une période pré-internet où on est censé se donner de la main à la main. Et là, en fait, il y a un moment un peu paradoxal dans lequel on arrive. Et toi, tu produis donc des contenus à la fois des podcasts. C'est une cette différence entre faire des podcasts et faire un travail sur YouTube. Là, on a l'impression qu'on a des outils en fait de portée à une portée beaucoup plus importante, large et directe. Qu'est-ce que ça apporte dans la prise de conscience des histoires, et puis qu'est-ce que ça n'apporte peut-être pas, en fait, justement, paradoxalement?
D'ailleurs, moi, avant même YouTube, mes espaces d'expression, c'est vraiment Instagram et TikTok. YouTube est aussi un support. Moi, en fait, j'essaie d'être vraiment ce qu'on dit 360. Mon objectif, moi, c'est que j'ai une éducation politique, une formation politique, une grille d'analyse de notre société à travers l'histoire de la Caraïbe et notre africanité, notre caribéanité aussi, qui est important, il faut la retenir. Donc moi, j'ai ce truc-là en moi, et j'ai toujours eu envie de la partager. Et donc, je me suis rendu compte que le podcast pouvait être une première étape. Donc c'est ce que j'ai commencé en 2018 en faisant des interviews dans mon podcast qui s'appelle Le Moicast, des interviews avec des ultramarins, des Antillais, Antio-Guyanais, qui ont eu des parcours politiques, mais aussi dans l'aspect business, même si je suis moins dans cet aspect-là, mais aussi pour comprendre comment ces parcours de réussite se sont effectués, mais aussi des sportifs, des artistes, etc. Donc c'est vraiment la première étape, essayer d'infuser quelque part une forme de réflexion à travers ces interviews. Puis j'ai découvert Instagram et les vidéos courtes sur Instagram, et j'ai créé en fait un format mi-chemin entre humour et contenu sérieux, où je vais parler de racisme, où je vais parler de la colonisation, où je vais parler de la situation actuelle, donc parler de l'eau. Moi, c'est un de mes sujets, l'eau actuellement en Guadeloupe.
T'es en train de faire un gros projet là-dessus, non ?
Ouais, je fais un jeu vidéo actuellement, on développe un jeu vidéo avec mon équipe là-dessus. Et voilà. Et ensuite, là, y a la vidéo plus longue. Donc, y a YouTube, il y a Twitch. Twitch, c'est des lives, en fait. Et là, je fais des discussions longues sur des thématiques. Je reçois des gens et on essaie de défricher et de vulgariser, c'est très important, ces thématiques. Il y a des chercheurs qui font un travail de recherche incroyable sur ces questions, mais qui ont parfois du mal à les partager, du mal à les rendre digestes pour un public, pour le grand public. Et des gens comme moi, je suis pas le seul, hein, y a plein de créateurs de contenu, Histoire Crépue, etc., qui font le travail. Et on essaie de rendre ça digeste, accessible, sympa aussi pour les gens, pour aussi essayer d'éveiller des consciences. Enfin, j'aime pas ce terme d'éveiller les consciences, parce qu'on n'est pas non plus, mais on essaie de partager des choses.
Mais du coup, ces contenus-là qui vont passer par un outil numérique pour essayer de filer cet endroit-là sont pas complètement équivalents au fait, comme dans la génération de tes parents et comment ils ont lutté, de devoir physiquement se retrouver ou physiquement s'engager les uns par rapport aux autres. On parle de Renette qui va aller acheter son pain le matin alors qu'il est censé être un fugitif.
Ouais.
Ça, c'est des modes de relation qui sont tissés sur un rapport interpersonnel. Est-ce que tu crois que ces supports-là permettent de produire ce type d'affiliation?
Je pense que c'est différent, c'est une époque qui est différente. J'ai beaucoup pensé à ça. Est-ce qu'il y a une époque qui valait mieux qu'une autre? Est-ce qu'aujourd'hui on est plus dans le virtuel, etc.? Mais je pense que le monde dans lequel on est a changé. Une chose qui a évolué dans nos territoires, c'est que le capitalisme, malheureusement, il est entré par tous les ports de notre peau. On peut pas s'en défaire. Tous les jours, on y est, on est dedans, on y participe. Là où à l'époque, il y avait encore l'option de marronner, de sortir du système. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, quand on est dans ce système, mais qu'on a quand même cette conscience de, y a des choses qu'on veut faire changer, il y a des choses où on n'est pas d'accord et tout, les réseaux, la vidéo, le partage de contenu, c'est une manière de créer l'étincelle d'une réflexion, d'une révolte chez les gens. Je dirais que on est aux prémices de quelque chose grâce à ça, mais qu'à un moment donné, ça passera aussi dans la vraie vie.
Oui, et pour finir sur cette question de la situation actuelle, parce que là, tu as fait un travail, en fait, 67-89 sur les indépendantistes. On se dit qu'on est quand même dans une période qui est quand même un peu plus creuse. Peut-être oui, oui. qu'on est au début d'un renouveau, mais en tout cas, on est descendu.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Comment tu regardes, en fait, auprès des jeunes générations comme ça, antillaises, en diaspora et là-bas, la réception de ces idées-là?
Déjà, la génération juste avant nous et celle des parents a ce truc de dire indépendance, autonomie, non. C'est pas un sujet, ça m'intéresse pas, ça marchera jamais. Et même s'ils regardent avec un œil positif, c'est quelque chose qui est inatteignable parce qu'on va finir comme Haïti. Hein. Ça me révulse quand j'entends les gens me parler d'Haïti comme d'un épouvantail. Je trouve que c'est une méconnaissance totale de ce qui s'est passé à Haïti, mais on en parlera. Voilà. Mais je trouve que par exemple, dans la nouvelle génération, chez les jeunes, il y a une fascination, parfois un peu fétichiste, mais fascination quand même, des luttes, de ces périodes, de cette capacité qu'ont eu certains anciens à prendre leur destin entre leurs mains et aller directement au contact et au combat face au système. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase plus ou d'apprentissage. Peut-être que ce seront les enfants de ces gens de cette génération-là qui seront abreuvés de ces discours, qui auront l'action plus directe. Oui.
Super. Je te remercie. Je vais vous passer la parole pour qu'on on clôture cette première séance du matin. Je sais pas si c'est qui a le micro dans la salle. On va vous donner celui-ci si vous avez des questions pour Samora.
En tout cas, merci.
Je t'en prie. Il y a une question là-bas.
Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Je me posais la question. Comme il s'agissait d'indépendance et de luttes qui ont été réprimées notamment par l'armée française et qui est encore présente sur le territoire, est-ce que c'est possible, c'est sûr qu'il y a une archive de leur part de ces moments-là? Est-ce qu'elle est accessible comme l'archive de la guerre d'Algérie commence à l'être? Est-ce que vous avez su ou accédé à ça?
Moi, je me suis surtout renseigné à peu près de l'INA. Pour mon documentaire, donc tous les documents d'époque sont de l'INA. Par contre, les archives de la gendarmerie ou de l'armée, pour des raisons, je pense, de mélanine, je n'ose pas trop demander à l'armée ou à la gendarmerie leurs archives directement, mais peut-être qu'il doit y avoir des choses, je ne sais pas du tout.
Après, peut-être pour prolonger votre question, pour montrer dans quel type de nœud paradoxal on se trouve, l'une des solutions, en fait, pour annihiler ces volontés indépendantistes aux Antilles, c'est l'armée. Mais l'armée comme carrière. C'est-à-dire que ce qui va se passer juste derrière cette séquence-là, et qui a déjà eu lieu plusieurs fois aux Antilles avant, c'est que la possibilité d'avoir une formation, un travail, un peu de sécurité...
Le permis.
Ça va être le permis de conduire, ça va être l'armée.
C'est la même chose qui se reproduit avec le système de fonctionnaires.
Bien sûr.
Alors, juste pour les fonctionnaires, moi j'ai beaucoup de respect et d'amour pour les fonctionnaires, parce que beaucoup de nos militants et beaucoup de gens qui sont militants sont dans la fonction publique, hospitalière notamment, et ça a été. Ouais, le KP, par exemple. Et parfois, c'est une situation de confort qui permet d'avoir le temps de se mettre dans des luttes. Voilà.
Ouais. Mais c'est pour dire, ouais, du coup, moi je poursuivais juste cette question-là, en tout cas pour savoir que la question de l'armée est un endroit assez paradoxal aux Antilles, pour savoir aussi que dans les Outre-mer, en fait, quand l'État français, et récemment vous avez dû l'entendre, peut-être ça vous a surpris, Emmanuel Macron parlait de reconstituer une armée, il ne parlait pas des gens en hexagone. Hein. Et ça, il ne parlait pas des gens en hexagone. S'il y a un endroit où on reconstitue de l'armée au service de la France, c'est dans les Outre-mer. Voilà. Et donc, c'est vraiment aussi une stratégie de dégradation du système scolaire. Ici, en France, on peut sortir à 16 ans de l'école et puis on a l'école de la deuxième chance, on a de la formation. Chez nous, nous, c'est l'armée. Nous, c'est l'armée qui vient récupérer les gens directement. Parfois, vraiment, en leur donnant une vraie formation, un vrai encadrement, un vrai. Mais par exemple, la France qui a été présente sur le théâtre de guerre de l'ex-Yougoslavie, en fait, c'est 100% des Antillais qui ont été combattre là-bas. Et c'est pas, et il y a d'autres guerres de ce type-là sur lesquelles on a été surreprésentés. Donc ça, il y a un endroit extrêmement paradoxal entre la violence policière et le rôle, on va dire, social de l'armée dans nos sociétés. Et au Rwanda aussi, les Antillais étaient très présents. Ouais.
C'est une guerre en amont, qui se fonde dans la population et un peu être agent de l'État.
Donc voilà, ça c'était aussi pour montrer un nœud paradoxal sur lequel il est intéressant de travailler et qui est aussi une espèce d'arme de pacification très impressionnante, que dans toutes les familles antillaises, il y a quelqu'un qui a été dans l'armée.
Ouais, qui est en Guyane au service militaire.
Il y a encore une question, pour une dernière question pour qu'on conclue. Prends le micro, Chuck.
On en avait parlé de ton travail, mais ce qui était intéressant, moi je commence un peu à m'y intéresser, c'est à la période de l'apartheid en Guadeloupe.
L'apartheid qu'il y avait en Afrique du Sud,
comment on l'a vécu en Guadeloupe ? Qui a existé en Guadeloupe, parce que ça existait, et ce qui était fou, moi, en fin de compte, je suis mulâtre, blanc et noir. D'accord. Mais c'était assez marrant, quand les gens ne pouvaient pas se fréquenter, moi j'avais une arrière-grand-mère commerçante.
Oui, oui.
Donc après le commerce, son commerce, elle fermait à Pointe-à-Pitre, puisque moi, nous, on est une bastion de Pointe-à-Pitre. Et c'est fou, parce qu'après, tu devais traverser, comment ça s'appelle, Mortenol, qui était un peu la frontière.
Oui, oui.
Voilà, Mortenol, après avoir fermé, du côté du centre des arts, avec toute la partie un peu blanche ou autre, elle fermait son commerce, elle prenait des paniers, elle traversait sur l'autre versant de Mortenol, puisque c'est en face.
Oui.
Et là, à ce moment-là, tu avais la police, les gendarmes, qui allaient. Au début, ça a été des frictions,
d'accord,
parce que ça ne se faisait pas comme ça, puisque c'était interdit. Et après avoir multiples frictions, elle a fini par avoir gain de cause et pouvait aller vendre aux Antillais, aux locaux.
D'accord.
Ah, oui.
Ah, j'avais pas ce.
Ah, oui, ça,
parce que je sais que nos territoires sont fondamentalement coloristes et c'est par les populations.
Moi, quand j'ai appris ça, parce qu'il a fallu chercher avec les parents, c'est encore une fois, comme tu disais, il faut
fouiller,
que les parents délient les langues, c'est comme l'esclavage. Hein. En Guadeloupe, Bubidome, tout ça, pour parler, il faut. Et là, de plus en plus, tout simplement, on en parlera tout à l'heure, mais je trouve qu'aujourd'hui, moi, ce que j'aime bien en Guadeloupe, moi, je suis vraiment investi en Guadeloupe parce que je suis de Pointe-Trois, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes reviennent et investissent, et je crois qu'il y a un nouvel élan des gens qui sont partis pendant 15-20 ans, là, et qui rachètent des choses, même, on parlait de marronnage, de choses. Dans 10 ans, ça va porter ses fruits, moi, je suis convaincu. Voilà.
Moi, je suis content. Il y a Françoise, tu lèves la main. Tu voulais faire une petite remarque ?
Oui, je voulais faire une remarque ou en posant une question, parce qu'on parle de ne pas parler, dans que les personnes ne parlent pas, le peuple ne parle pas, ne veut pas parler. Et tu parlais de trauma, mais je me demandais aussi si c'est parce qu'on ne nous a jamais vraiment écoutés. Il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'écoute réelle, c'est un peu ce qu'on disait, je veux dire, toutes ces. Alors bon, finalement, 67, il y a finalement un livre, mais tout ce temps-là, tout est, je veux dire, l'esclavage, mais jusque dans les années 90, la fin des années 90, on n'en parle pas en France. Je veux dire, en 98, moi je me souviens, il y avait des Français qui disaient, ah oh, non, mais l'esclavage, non, ça n'a jamais vraiment été très fort ici, c'est les États-Unis. Il y a un énorme chape de silence, donc pour parler, il faut. Savoir qu'on va être écouté, c'est ça que je veux dire. Sinon, on a ce sentiment, on parle dans le vide. Et je me dis, il y a encore les paroles ne sont pas écoutées. Ce qu'on appelle les outre-mer ne sont pas écoutées. Et je veux dire, on n'a jamais été écouté. Même si, je le redis, par exemple, nos théories, ce que tu disais même, par exemple, tu vois, les théories de ce que c'est que l'émancipation, et qui viennent de nos territoires, ne font pas partie du tout de ce qui est admis comme théorie. Tu vois, donc il y a des épisodes, il y a des exemples, il y a de la répression, ça c'est admis, hein, quand même, finalement on admet. Mais le fait qu'il y ait des théories au sens que comment on pense l'émancipation, comment on pense la libération, rien. Rien. Je veux dire, Fanon, c'est quand même surtout l'Algérie, quoi. Je veux dire, c'est pas, y a rien. Donc, je pense aussi qu'il faut remettre en avant nos théories d'émancipation et de libération. C'est-à-dire qu'on a une pensée. Je veux dire, on n'est pas simplement des exemples. On n'est pas simplement, tu vois, des témoignages, des incidents, tu vois, dont on finit quand même pas parler. Oui, ça a été brutal, mais on dirait que, je veux dire, c'est des explosions comme ça de colère qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de raison. Enfin, alors que justement, ce que tu rappelles, c'est qu'il y avait même le fait que tu t'appelles Samora montre qu'il y a une profonde conscience politique au sens de vraiment, c'est pas simplement, je veux dire, c'est pas des modes, quoi, tu vois. C'est ancré, quoi. Juste ça, je me disais aussi. Que finalement, il faut qu'on se mette à écouter nos universités dans nos pays, dans nos territoires. Elles n'écoutent pas tellement tout ça. Il y a très peu de choses qui font ressurgir ces voix. Je me disais que c'était... Il y a le trauma, ça c'est très important, effectivement. Et puis, il y a l'aspect sur l'immigration. On connaît très peu, je veux dire, les activités des migrants réunionnais, martiniquais, guadeloupéens et guyanais. On les connaît à peine.
Moi, par rapport à ce que tu dis, effectivement, il y a à la fois, donc, il y a des traumas et des chapes de plomb familiales, intracommunautaires qui sont réelles et fortes parce que c'est des choses douloureuses. Par contre, en ce qui concerne l'écoute à plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau de l'école, par exemple, etc., ben, en fait, moi, ma théorie, c'est que je pense que l'État français n'a aucun intérêt à ce que les populations, même dans l'Hexagone, apprennent dans les livres d'histoire qu'il s'est passé ça en années 80, qu'il y avait des personnes qui ont théorisé les luttes dans nos territoires, parce que ça a apporté de l'eau au moulin à des personnes, par exemple, qui seraient des personnes immigrées ou des personnes qui seraient... Mais le truc, c'est que nos intellectuels, pour pouvoir avoir des échos de leurs travaux, eh bien, il faut qu'il y ait des médias, il faut qu'il y ait des choses qui donnent la parole à ces personnes. Mais est-ce que vraiment France Télévisions... Enfin, non, je vais peut-être pas aller là-dessus. Bref, mais voilà, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que ces gens-là... on parle beaucoup, par exemple, quand il y avait France O, on parlait du surf, on parlait du trekking, on parlait de certains auteurs qui ont du talent. Mais dire... les théories d'émancipation des peuples sous la colonisation, etc., ou le système néocolonial, je crois pas que c'est dans leur intérêt. Enfin, ça, c'est
mon point. Et puis ça fait aussi, c'est aussi depuis longtemps que la télévision, quoi, d'outre-mer, quoi, Franceau,
qui a été supprimée.
Oui, qui a été supprimée, qui est devenue, maintenant on a joue avec quand même un travail de filtrage. Moi, j'en prends pour preuve, j'ai dû faire peut-être trois programmes où j'avais été filmé autour de la Seine-Saint-Denis et les Antilles. Aucun des trois n'a été diffusé, en fait. La grille, les cartes Seine-Saint-Denis, banlieue, Antilles, ils disent le public ne veut pas. Donc là, dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens diaspora Antilles, pour créer une boucle de nos questions, pour répondre à François ce que tu dis, mais il y a aussi un autre problème, c'est que quelque part, une fois que nous, on arrive en Europe, on est complètement dilué, il n'y a plus de dénonciation antillaise basé en depuis la France. Ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'en gros, on renvoie aussi les Antilles à une espèce de boucle folklorique sur eux-mêmes, sans considérer que la circulation diasporique antillaise est une partie de l'identité antillaise, une partie parfois tragique, mais une partie. Et ça, c'était très clair avec France O. Ils voulaient pas entendre parler des Antillais à Paris, sauf dans quelques sujets bien choisis, qui étaient un peu...
Par exemple, le Bumidum, qui est pour le coup un processus qui est pas juste des coups d'éclat ou des trucs, c'est vraiment un processus de d'objectification à nouveau des personnes ultramarines à travers ce système. Ben c'est à partir de quand qu'on a commencé à en parler, ça a été à partir des années 2000, enfin qu'on a vraiment remis ça sur la table, c'est après 2010, etc., où les gens ont commencé à refaire des podcasts, ont commencé à vouloir faire des docus sur le Bumidum et tout, parce que en fait ces sujets-là, si tu dois passer par des canaux plus classique, ça passe pas. Il faut que les gens créent leur...
C'est vrai. on n'est pas non plus sans outils.
Oui, oui.
C'est de ça que je me porte. Moi, j'adore bien les institutions, évidemment, je ne vois pas que la télévision va se mettre à interdiser nos films, nos militants. Mais je trouve que nous-mêmes, on a plus de sources et de références qu'on ne l'admet. Ou qu'on, je ne sais pas si on l'admet, mais qu'on diffuse nous-mêmes.
Oui, bonjour. Oui, en fait, je disais que je vous remercie. C'était très intéressant d'avoir fait le parallèle entre l'Algérie et les problématiques identitaires dans les Outre-mer, parce que je suis kabyle et donc par rapport à ça, nous avons pas du tout eu la chance de pouvoir nous exprimer au moment des guerres, au moment de la guerre mondiale. Et après, bon, il y a eu le départ, la Turquie qui avait envahi l'Algérie. Après, c'était devenu français. Et après, De Gaulle a lâché l'Algérie à cause des problèmes avec le FLN, etc. Mais je pense que aujourd'hui, quand on discute avec les Kabyles précisément, il y a une grande partie de l'Algérie qui ne voulait pas, malgré toutes les atrocités, les horreurs qu'ont vécu les Kabyles et toute la souffrance qu'ils ont vécue, ils ne voulaient pas devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est-à-dire de revenir en France sans avoir aucun droit français, alors qu'ils ont été longtemps français. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est un parallèle intéressant de voir que l'oppression, elle l'est encore actuellement, puisque de toute façon, l'Algérie s'en est pas sortie de toutes ces guerres, et elle est toujours victime de, malheureusement, ces comportements qui n'ont pas aidé. L'Algérie a été libérée, mais bon, après, sous quelles conditions? Qu'est-ce qu'on en a retiré aujourd'hui? Pourquoi il y a toujours autant d'Algériens qui veulent revenir en France? C'est un peu compliqué, mais après, c'est vrai que c'est intéressant de comprendre aussi l'histoire des Outre-mer, et que c'est pas aussi simple, même si vous êtes français, est-ce que il y a encore de l'acceptation par rapport à toute votre histoire, quoi. Voilà.
Je vais faire la transition de fin parce que ça va être l'heure de faire la coupure. Mais en fait, on a beaucoup de choses encore à discuter, vous inquiétez pas. Mais je voulais déjà remercier en fait Samora pour ce partage, dire que la suite du podcast est... est accessible, voilà, la suite du podcast est accessible en ligne. Dire aussi que cet après-midi, on va poursuivre le voyage dans la continuité de ce qu'on vient d'esquisser justement dans notre conversation. C'est-à-dire qu'on va arriver en hexagone. On va discuter aussi un peu de ce qui va être transporté en fait dans cette deuxième diaspora, parce que pour nous Antillais, voilà, arriver en Europe, c'est faire le triangle. Depuis l'Afrique via les Amériques. Donc cette question diasporique, on va y venir cet après-midi en essayant de comprendre en fait les différentes formes de présence, d'expression, de trace, à travers notamment deux artistes qui sont quand même des personnes importantes de l'histoire de l'art français et du graffiti notamment, qui sont Jewan Ramier et Chuck Wan qui sont là. Chuck est mon cousin, comme ça c'est spoilé, vous savez, vous vous direz pas que je l'ai invité pour ça, parce que c'est quelqu'un de très talentueux par ailleurs. Et mais en tout cas, voilà, pour montrer aussi que derrière, en fait, des trajectoires qui vont être des trajectoires après en France, essayer de réfléchir aux traces qui restent de ça, parce que là, on rentre dans le moment qui est la question de la trace. Comment la trace va être cuisinée, comme on dirait chez nous, comment le courbouillon va être fait pour que, quelque part, une forme artistique autre émerge. Et quels sont aussi les éléments de trace qui restent? Moi, je pose l'hypothèse aussi que nous-mêmes, et là, ça suit ce que dit Françoise, on est parfois en partie responsable d'une part de disparition de notre identité caribéenne dans nos parcours, qu'on doit retrouver sans cesse, qui s'enfuit et qui revient, et donc on essaiera de parler aussi de ça dans à la fois des pratiques qui vont avoir comme terrain la rue et comme on disait les murs aussi, et les murs sur lesquels on écrit qui sont quand même des choses que disaient tes parents qui sont dans nos histoires en fait. Comment l'histoire du graffiti peut être réfléchie aussi en rapport avec les murs antillais, au même titre que les murs new-yorkais, que les métros, comment un voyage peut se faire berlinois aussi. Comment tout ce mariage-là se fait? On parlera aussi avec Paul-Aimé William de la présence guyanaise qu'on va introduire dans notre conversation et le rôle de l'exil dans les formes de création. Parce que voilà, là, on rentre dans cette question diasporique. Et j'inviterai Denethem Douambona à conclure cet après-midi, où là, on va réouvrir, mais dans l'autre sens, en fait, la question de, des formes d'influence de, des épistémologies caraïbes sur d'autres luttes. Donc, encore une fois, on est sur un voyage de diaspora, mais aussi d'expansion et d'élargissement, pour essayer de comprendre que les choses ne vont pas dans un seul sens, en fait. On est à la fois influent sur d'autres. Moi, j'en prends pour témoin un dernier voyage que j'avais fait à La Réunion, ou dans la ZAD des Azalées, l'endroit où a commencé les Gilets jaunes. Autre point de cartographie important, les Gilets jaunes commencent à La Réunion. Et il y a encore un rond-point, une ZAD très célèbre comme ça, qui s'appelle la ZAD des Azalées. Et eux-mêmes regardaient quand j'étais leur rendre visite sur Internet les insurrections en Guadeloupe. Donc il y avait aussi une espèce de circulation et de modèle pour eux, guadeloupéens, de leur lutte. Et je trouvais ça important, la notion en fait aussi de possibilité de rayonnement, influence, construction d'autres luttes à travers des influences partagées. Voilà, on a un beau programme cet après-midi, on va déjeuner d'abord et puis à tout à l'heure.